Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, médias et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Notre infomédia fête aujourd'hui un anniversaire. Les 20 ans de Faites Entrer l'Accusé. Pour la peine, Christophe Ondelat a consacré un Ondelat raconte à Christophe Ondelat. Il sera avec nous dans ce studio sans son blouson. Nos invités ensuite, Hélène Gâteau, c'est la vétérinaire qu'on voit le dimanche chez Michel Drucker sur France 2. Elle lance aujourd'hui avec Michel Simès un nouveau venu dans les kiosques, je vous le montre. Dr Good Veto, un magazine très surprenant. Et on va même vous faire entendre de la musique pour chats. Et j'ai testé, ça fonctionne. Enfin, le comédien Pierre de la Donchamp pour la nouvelle mini-série que lance France 2 ce soir. Ça s'appelle Romance et il y aura évidemment son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias. Qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Eh bien, des démissions à la chaîne aux États-Unis, des mesures choc à l'équipe, BFM grillé par France 3 et Denis Zou qui revient à la télé.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Les Français ont plébiscité la fiction. TF1, bon premier avec Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. 3 millions téléspectateurs, 988 000, c'est 21,3% d'audience. Juste derrière, France 3 qui ne démérite pas avec sa série policière Tandem. 3 948 000 téléspectateurs, 15,7% d'audience. Et puis en fin de podium, c'est France 2 avec son jeu Tout le monde joue avec la France. 3 millions téléspectateurs, 13,5% du public.
Culture Média.
Et on commence ce journal avec le mouvement antiraciste aux États-Unis qui génère des conséquences dans les médias américains.
Des rédacteurs en chef du New York Times et du Philadelphia Inquirer viennent tout juste de démissionner. C'était dans la nuit en France avec le décalage horaire. Les journalistes de ces deux quotidiens accusent leur chef d'avoir laissé passer dans leur colonne des tribunes inappropriés. Voilà leurs mots. On vous en parlait en début de semaine, par exemple, une tribune dans le New York Times d'un sénateur républicain de l'Arkansas avait suscité un tollé en interne. Dans cette tribune, les manifestants étaient qualifiés d'émeutiers et le sénateur Cotton qui avait écrit cette tribune proposait de leur renvoyer l'armée. Ça ne s'arrête pas là. Des journalistes noirs du site féminin Refinery29 viennent de dénoncer des humiliations qu'elles subissent depuis des années au travail. La rédactrice en chef du site a été priée de quitter le groupe en quelques minutes. Même chose pour un magazine culinaire extrêmement célèbre aux États-Unis, du nom de Bon Appétit. Une photo d'un de ses rédacteurs en chef, grimé en latino-américain et prise en 2013 pour Halloween, vient de ressortir. Adam Rapoport, c'est son nom, a dû prendre ses affaires et quitter l'entreprise illico presto. Des démissions en série qui rappellent son temps, celle de MeToo, quand la parole des femmes s'est libérée dans les médias et plus généralement dans la société.
On continue, on va parler des municipales à Paris. BFM TV avait annoncé que la chaîne organiserait le seul débat entre les trois candidates en lice le 24 juin avant le second tour. Eh bien, pas tout à fait.
Résumé d'abord des épisodes précédents. En mars dernier, BFM TV et LCI veulent avoir leur débat entre les 9 candidats à la mairie de Paris. Ça n'a pas été facile, mais les deux chaînes infos se mettent d'accord. LCI diffusera le premier round, avant le premier tour donc. C'est un carton d'audience. BFM TV compte bien surfer sur ce succès quelques jours plus tard. Mais voilà, la France est précipitamment confinée. Le second tour est reporté à fin juin. Cela faisait donc 3 mois que BFM TV attendait. Depuis quelques jours, la première chaîne info le rappelle fièrement en boucle entre deux journaux. Le débat décisif d'entre-deux-tours, c'est le 24 juin chez elle et chez sa petite sœur BFM Paris. Sauf que hier, changement inattendu, revirement, Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn décident d'accepter la proposition de dernière minute de France 3 Paris Île-de-France et de débattre bien avant le rendez-vous de BFM TV. Ce sera le 17 juin, mercredi prochain donc, dès 18h. Le débat sera aussi diffusé sur France Info, la radio, et France Info TV, canal 27, à la présentation Marc Fauvel et William Van Kie.
Et Martin, le service public tient ici sa revanche.
Oui, parce qu'en mars dernier, rappelez-vous, ça chauffe dans les couloirs de France Télé et Radio France. Les patrons du service public apprennent par la presse que les candidats à la mairie de Paris ont refusé leur offre de débattre chez eux, préférant celle de BFM TV et de LCI. Furieux, ferrarissime, ils envoient un communiqué commun pour dire qu'ils sont stupéfaits. Gênés, les candidats du premier tour finissent par venir débattre sur France 3. C'était le 10 mars, mais pas A pour un second débat. C'était juste après celui de LCI. Cette fois-ci, il semblerait donc que les services publics aient retenu la leçon.
On continue ce journal des médias avec l'équipe qui lance des grandes discussions pour convaincre ses journalistes de faire des concessions pour sauver le journal.
Dans le jargon, on appelle ça un accord de performance collectif. Cela veut dire très concrètement que la direction de l'équipe demande à sa rédaction des efforts pour enflouer une partie des caisses. Les salariés sont priés de réduire leur salaire de plus de 10% et de perdre 16 RTT. Par an. Raison invoquée, des difficultés depuis 3 ans, la crise du Covid et la crise de Prestalis. Écoutez la réaction à ces annonces de Daniel Pérez. Il est syndicaliste CNJ-CGT à l'équipe.
Elle nous a annoncé un plan officiellement sans alternative, donc celui d'un projet d'accord de performance collective qui nous priverait en l'état actuel de leur proposition de 10% de salaire, même un peu plus, et de 16 jours de RTT. Excusez du peu. Le problème, c'est que quand on demande à la direction si elle compte remplacer tous les salariés qui refuseraient cet accord sur la base d'un travailler plus pour gagner beaucoup moins, elle nous répond que dès qu'elle pourra éviter de les remplacer, elle le fera. Donc ça veut dire qu'elle veut gagner sur tous les tableaux. Et ça veut dire qu'à mon avis, on est parti pour une longue bataille parce que la vie à l'équipe serait rendue impossible après la signature d'un tel accord.
Selon nos informations, la direction de l'équipe souhaite se donner tout l'été pour expliquer son projet et va insister sur un point. Le quotidien sportif espère revenir dans le vert dès 2021. Et en 2021, une fois les comptes meilleurs, l'équipe veut reverser une jolie prime d'intéressement et de participation à ses journalistes en contrepartie des efforts demandés. Réponse des syndicats. Même si la prime était élevée, cela ne compenserait jamais la baisse des salaires. Et qui dit que la conjoncture va finalement repartir ? Daniel Pérez, toujours de la SNJ-CGT, a aussi une autre crainte. Écoutez.
Il faut avoir en tête que le principe de l'accord de performance collective, c'est que s'il est validé par au moins 50% des syndicats représentatifs dans l'entreprise, s'il est valide donc, les salariés qui refusent de se voir appliquer les conditions prévues par cet accord sont licenciés.
Comprenez, une fois l'accord signé par les syndicats, les journalistes qui refusent de s'y conformer prendront la porte. Côté direction, le message suivant va être martelé à la rédaction. Ce n'est pas le but de faire partir les journalistes, tel un plan social déguisé. Il n'y a pas de plan B, dit-on.
On continue ce journal avec la nouvelle chaîne Bismart TV qui annonce une arrivée surprise sur son antenne.
Celle de Michel Denisot pour une émission nommée Le Grand Comex. Chaque mois, l'ex-star de Canal+ et rédacteur en chef de Vanity Fair accueillera un grand patron entouré de son comité exécutif. D'où le nom Le Grand Comex. Le journaliste économique Jean-Marc Sylvestre, lui aussi, est de l'aventure pour donner chaque jour la parole aux PME et aux TPE. Au total, 7 heures de programme inédit diffusé par jour dès le 23 juin prochain.
Ex-rédac chef de Vanity Fair, il avait fait un très très bel édito pour dire qu'il arrêtait ce rôle. Et puis j'annonce que Stéphane Soumier, le fondateur donc de Bismart TV, sera notre invité mardi prochain dans Culture Média. Et puis on termine avec Charlie Hebdo qui a remis son premier prix Charlie de dessin satirique.
259 dessins, 15 sélectionnés seulement, 2 gagnants. CF, 24 ans tout juste, et Till seulement 18 ans. Impossible. Ça vous fait rire ?
Oui, parce que vous donnez les noms, mais on ne voit pas les dessins, donc ça ne nous parle pas
encore.
Je vais vous les décrire.
Attendez, soyez impatients. Impossible donc de départager, selon le jury, ces deux lauréats, ces deux finalistes, pour ce premier Grand Prix dont le thème était « Vivre sans portable », un thème pas choisi au hasard, puisque le concours s'adressait à de jeunes dessinateurs satiriques dont ce n'est pas le métier, et qui ont connu le portable dès leur plus jeune âge.
Et là, après ce teasing de folie, à quoi ressemblent ces dessins satiriques ?
Fermez les yeux, vous les décrivez.
C'est toujours difficile de décrire un dessin, je le
précise. Vous allez voir, je prends le risque. Il faut imaginer le dessin de Sef. Il est en noir et blanc, le très fin. On y voit Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, les mains croisées, les yeux fermés, d'un ton magistral avec ses lunettes. Et cette déclaration, pour vivre sans portable, nous mettrons en place un numéro d'appel d'urgence.
Et là, vous m'avez écrit « Ah, 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 ah !» Et le second lauréat, alors, Martin.
Alors, vous voyez que je me lance dans la description quand même. Chez Till, le trait est un peu plus appuyé. Le dessin de couleur pastel marron, avec cette femme de Cro-Magnon dans sa caverne, une torche à la main. L'air est renfrogné, un os placé dans la tête tel une épingle à cheveux. Sur les murs de la grotte, on peut voir des dessins et des fresques qui ressemblent à des émoticônes de téléphone portable version préhistoire. Cette fois-ci, la légende. Comment a-t-on vécu sans portable ? Et cette dame en peau de bête, avec sa bouille débonnaire, avec sa jolie bouille débonnaire, qui lance à son mari « Ne m'attends pas, je sors avec les copains, je vais chasser quelque chose à manger pour moi, rien que pour moi », et de rajouter « Sale con, Bref, courez plutôt vite, vous avez raison. Voir ces dessins, ouais. Page 12 de Charlie Hebdo, ce sera plus éloquent. Cette semaine, la une de Charlie Hebdo qui se présente ainsi. Dépente, Zemmour, bavure chez les flics de la pensée.
Et il renvoie Dépente et Zemmour dos à dos. Merci beaucoup Martin Cangelosi. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
À suivre l'info média du jour avec Christophe Ondelat qui nous rejoint pour parler des 20 ans de fêtes entrées l'accusé. On l'accueille dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure Philippe de l'Info Média du jour.
Et c'était il y a 20 ans, le 6 juin 2000, la première diffusion de l'émission Histoire 2 qui deviendra sur France 2 Faites Entrer l'Accusé. Avec à la présentation un journaliste qui à l'époque n'aimait pas les faits divers, Christophe Ondelat, qui raconte comment l'émission est née en 99. Ce sera demain dans Ondelat raconte sur Europe de 14h à 15h et dès 6h demain matin en podcast et ce matin aussi dans Culture Média. Bonjour Christophe Ondelat.
Bonjour Philippe.
La première question tout d'abord, pourquoi avez-vous consacré un podcast d'Ondelat raconte à Christophe Ondelat, c'est-à-dire à vous-même?
Vous trouvez que c'est melonard?
Pas du tout. Je l'ai entendu, pas du tout. Bon, c'est pas melonard. Mais je me suis dit que vous êtes posé la question.
Jusque-là, j'ai une petite crainte là-dessus. Je ne voudrais pas qu'on se trompe sur ma démarche. Quoi. Il se trouve que les gens se mettent à raconter ces 20 ans de Faites Entrer l'Accusé. Pas mal de gens viennent m'interviewer. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas moi-même?
Ouais.
Voilà, c'est tout.
C'est comme Philippe Noiret. Philippe Noiret, on lui reprochait toujours jouer Philippe Noiret. Et il a dit, c'est moi qui le fais le mieux. Alors, le récit commence non pas en 99 lors de la création de Faites Entrer l'Accusé, mais en 87. Sinon, on ne comprend pas le jeune journaliste que vous étiez.
À l'été 1987, j'ai 24 ans, je travaille à Radio France Berry Sud à Châteauroux. C'est mon premier poste en CDI. Et comme tous les matins, le rédacteur en chef ratisse le journal local, la NR, la Nouvelle République. Oh, t'as vu ça ? À Levroux, un adolescent de 15 ans tue son petit frère en manipulant le fusil de chasse de son père. C'est bien ça. Christophe, t'y vas? Hein? T'essayes de nous ramener une interview des parents? Oui. D'accord. Avec mon fichu caractère, 2 ans plus tard, je l'aurais envoyé bouler. Mais là, j'ai 24 ans, je suis là depuis moins d'un an. Alors j'y vais. Je saute dans l'une des super 5 de la radio et j'y vais.
La Super 5, j'avais oublié, vous étiez attiré par la politique, Christophe, l'économie, la culture, pas par les faits divers. Et vous dites, ce journalisme-là me dégoûte. Pourquoi il vous dégoûtait autant ?
Ben, je trouvais absolument immoral d'aller interviewer des gens dans le malheur. Je trouvais que c'était aller chercher l'alarme, etc., de manière extrêmement voyeuse, et je voulais pas être de ce journalisme-là. Alors qu'en vérité, ce que j'ai appris après, c'est que ces gens-là, à ce moment-là, ils ont envie. Souvent, de parler. Pour peu qu'on sache entrer en connexion avec eux, ils ne sont pas forcément gênés. Et après, il suffit soi-même de se poser des règles. Et moi, la mienne est qu'on ne pleure pas à mon micro. J'ai appliqué cette règle de manière constante. En fait, entrer l'accusé, j'ai interviewé en vérité 150 victimes, ouais. Des mamans dont les petites filles avaient été découpées en morceaux, des choses très dures, ou des gens dont les parents, là, j'ai le souvenir d'une dame, une portugaise, dont la maman avait été tuée par un tueur en série, je crois que c'était Thierry Paulin, et elle était, mais voilà, elle est arrivée pour cette interview, elle pensait qu'elle n'y arriverait pas, et en fait, ce que j'ai découvert depuis, c'est que il y a une technique, sans doute, pour mettre ces gens à l'aise et leur permettre de s'exprimer, mais j'interdis qu'ils pleurent. Je leur dis toujours, si à un moment donné, vous êtes gagné par l'émotion, on arrête, vous séchez vos larmes, on fait un raccord maquillage, et on reprend quand vous pouvez vous exprimer, sans impudeur, en fait, voilà. Et j'ai appris ça, mais plus tard. On est puceau quand on commence, en tout. Hein.
Ouais, bah c'est le principe même du puceau. nous étions 87 à la NR, 12 ans plus tard, 99, vous présentez les journaux de la mi-journée sur la radio France Inter, et vous êtes depuis un an sur Forum Planète, je cite, une toute petite chaîne du câble que personne ne regarde. C'était quoi le principe de l'émission ?
C'était les dossiers de l'écran, le principe. D'ailleurs, c'était dirigé par Anne-Marie Lamoury, qui avait été le bras droit d'Armand Jameau.
Ouais.
Et tout ça, je parle à des gens là qui commencent à avoir des cheveux blancs, et donc il y avait un documentaire, un débat, et moi je faisais des débats scientifiques, j'étais très mauvais, j'y comprenais rien.
Et vous racontez dans le podcast et dans l'émission On la raconte, cette première expérience télé.
Et dans mon souvenir, je suis très mauvais. Mais enfin, souris Christophe, là. T'es crispé, faut sourire à la télé. Va te faire voir. Enfin, j'ai pas envie de sourire bêtement. La télé m'énerve déjà. Mon immense surprise, quand à la rentrée 1999, je reçois un coup de fil.
Oui, bonjour. Ici Christine Lenz, la directrice des magazines de France 2. Christine aimerait vous voir.
France 2 ? Ma foi, ça ne se refuse pas. Réglons tout de suite la question en toute transparence.
Oui.
À cette époque-là, j'ai 36 ans et j'ai envie de montrer ma tronche à la télé. La vanité, sans doute, un besoin de reconnaissance, le sentiment que ça serait un aboutissement. Bref, des conneries.
Vous dites avec le recul ou vous le pensiez déjà à l'époque ?
Oh, j'ai un rapport névrotique avec la télévision. Ben, mon vrai média, c'est la radio.
Ouais.
C'est celui que je pratique depuis 1981,
ouais.
Depuis mes 19 ans.
Mais dès le départ, ce rapport médiatique, ou névrotique, pardon, ou vous en rendiez pas compte vous-même ?
Cette idée de montrer sa tronche à la télé m'attirait parce que c'est vrai que dans une carrière, c'est un peu une consécration de faire de la télé et que la radio a toujours été considérée comme un sous-média. Mais en vérité, c'est un média. Je préfère de loin la radio et aujourd'hui, la maturité étant là, comme on dit. Je me sens plus à l'aise à la radio, mais j'ai envie de refaire de la télé. Mais c'est, ça sera toujours un média qui me gêne.
Alors, vous me servez la question suivante sur un plateau. Vous n'aimiez pas la télé, vous n'aimiez pas les faits divers, et vous acceptez de présenter une émission de faits divers à la télé.
Les choses se font ensemble, souvent dans votre dos. Faut pas croire qu'on a du succès parce qu'on a programmé d'avoir du succès. Faites entrer l'accusé entre nous, ça s'est fait dans notre dos. Tout s'est fait dans notre dos.
Ouais.
On n'aurait pas pensé que ça allait durer aussi longtemps. On n'aurait pas pensé, vous rendez compte, que faites entrer l'accusé, les numéros, les 150 numéros que j'ai tournés sont encore diffusés aujourd'hui sur une chaîne de la TNT gratuite après avoir circulé pendant 20 ans sur le câble.
Donc, je vous interromps parce que vous acceptez cette émission de faits divers, mais on propose des émissions absolument formidables. On vous propose de co-animer une émission avec une star de l'époque, Christophe de Chavannes.
Ouais.
Comme un lundi, pourquoi vous dites non ?
C'est Jacques Expert qui vient me chercher, qui me dit de Chavannes a envie que tu co-présentes avec lui. Et je dis non parce que j'ai toujours eu les idées assez claires là-dessus. Je suis vraiment journaliste. Aujourd'hui, ça s'entend.
Ouais.
Peut-être un peu moins, mais malgré tout, je continue d'appliquer ma grille à On de la raconte la même que celle que j'ai appliquée toute ma vie. C'est-à-dire, je suis journaliste et de Chavannes n'est pas journaliste. Et je savais d'avance qu'une émission de Chavannes sur TF1, ça serait pas ma cam.
Je vais pas spoiler, mais quand même, dans le podcast, Christophe Ondelat dit de Chavannes est animateur et moi, je suis journaliste jusqu'au fond du slip.
Ouais.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que je le suis profondément. Je le suis entièrement, tout le temps et jusqu'à la fin de mes jours. Ce qui me fait toujours suer, c'est qu'il a fallu certaines années que je me batte pour conserver ma carte de presse, alors même que j'ai ce sentiment d'être profondément journaliste.
Ouais. Voilà, je ne répéterai pas l'expression, vous restez avec nous Christophe Ondelat.
Oui, dans l'info média du jour, c'est Christophe Ondelat qui est avec nous pour parler d'un anniversaire, les 20 ans de Faites Entrer l'Accusé. On en reparle dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Dans l'infomédia du jour ce matin, on est très heureux de recevoir Christophe Ondelat pour parler des 20 ans de Faites Entrer l'Accusé avec jeudi dans Ondelat raconte, un récit retraçant la création de l'émission, Philippe.
Alors il faut raconter cette création, il faut dire que votre arrivée n'est pas vue d'un très bon œil. Vous racontez dans l'émission, dans le podcast, que la rédaction de France 2 s'indigne et dépose un préavis de grève.
Ben oui, parce que c'est une production privée qui propose ce magazine et que la rédaction, enfin en vérité c'est le chef de service qui va être le présentateur de cette émission, qui va donc tenter de s'imposer jusqu'au bout, mais dont le discours officiel est, ça n'a pas à être produit par le privé, la rédaction de France 2 peut le faire. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on sort de ça par une décision de Michel Cotta qui nous dit, vous n'avez qu'à vous démerder...
La patronne de France Télé à l'époque.
Ah oui, qui est la patronne de France Télé, enfin de France 2,
ouais.
La PDG de France 2 à l'époque, puisque les chaînes ne sont pas encore fusionnées dans une seule holding. Et Michel dit, démerdez-vous pour faire un truc que quelqu'un de la rédaction ne puisse pas revendiquer, ne puisse pas faire.
Au départ, vous aviez prévu de faire une émission classique avec vous qui présentez une grande table,
des
intervenants.
Des invités, des reportages et plusieurs sujets par émission, ce qui était un truc assez classique. On oublie les trucs parce qu'il s'agit de 99-2000. Le concept s'invente en 99 et il est mis à l'antenne en 2000. Et en 1999, il y a donc 20 ans, l'idée d'avoir un présentateur dans un documentaire était un truc qui n'avait jamais été fait en France. Aujourd'hui, je ne sais pas, Échappée Belle, la Maison France 5, tout ça, il y a des types qui sont des présentateurs en situation incarnés, mais qui sont en situation filmée dans des décors réels, ça ne s'était jamais fait il y a 20 ans. Et donc ce truc-là qui existait en fait à la BBC, déjà mais nous on ne le savait pas parce qu'on ne regardait pas à la BBC, il n'y avait pas le câble, il n'y avait pas tout ça. Et donc on a inventé ou plutôt réinventé ce concept-là. Et en fait c'est ça qui nous a sauvés. C'est comme ça que l'émission a duré tant d'années et qu'elle existe encore aujourd'hui.
Le décor.
Voilà. Alors d'où le décor, on a mis du temps à aller dans ce décor. Moi-même je ne me souviens plus exactement quand est-ce qu'on y est allé. C'est-à-dire ça prenait un temps fou ces tournages dehors, avec des déplacements. les réalisateurs, Bernard Farou est assez casse-couille là-dessus, il faut régler la lumière pendant des heures, on passe un temps fou, quand c'est l'hiver il fait froid, quand c'est l'été il fait chaud, quand il y a du vent ça siffle dans les micros, bref il y avait une sorte d'inconfort qui faisait qu'on terminait à 3h du matin, ça pouvait pas durer comme ça. Quoi.
Comment s'est passé le premier tournage, je vous le demande pas maintenant, c'est vous qui le racontez dans votre podcast, Christophe Ondelat.
Ça tourne ! Action ! Je n'ai aucun souvenir de ce premier plateau. J'ai dû être très mauvais. On n'avait pas de prompteur, bien sûr, dans une casse de voiture. Après, j'ai demandé qu'on m'en mette. Mais au début, j'étais censé apprendre mes textes par cœur. Et bien sûr, je ne les savais pas. Alors on a recommencé, et recommencé encore. Et je voyais Christian, le producteur, tendu comme un arc, qui allumait clope sur clope. Avait-il misé sur le bon cheval ? Je me dis qu'il devait en douter. Et moi aussi.
Christian Gérin, le producteur. À quel moment vous avez pris goût aux faits divers ? Qu'est-ce qui a fait que ce qui vous dégoûtait a commencé à vous passionner ? Parce que quand on fait 11 ans d'une émission, au bout d'un moment, c'est qu'on aime.
En vérité, ça a été très progressif. Mais, si vous voulez, c'est le contact avec les gens qui changent le rapport à la matière. Et au cours de la deuxième saison, j'ai une rencontre qui a quand même été, parce que ça ne va pas se renouveler beaucoup, ça m'arrivera 2-3 autres fois dans la série, mais je vais rencontrer une assassin, une femme assassin qui est Simone Weber, qui au moment où on raconte son histoire, parce que moi j'ai eu la chance en fait entre elle accusée de raconter les grandes histoires mythiques de la fin du XXe siècle.
On va dire que Simone Weber, voilà. Elle avait découpé son amant à la meuleuse à béton. Quand même,
voilà.
Faut le faire.
Et mis ça dans 17 sacs poubelles.
Pardon de rire.
Ah oui, voilà. Et donc je l'interview dans un grand hôtel à Cannes. Elle arrive, elle est allée chez le coiffeur comme une vieille dame. Elle est charmante. D'ailleurs, c'est tout ce qui a fait sa célébrité, c'est d'avoir à la fois ce côté très mamie confiture et puis à côté d'avoir découpé ce mec-là, puis peut-être tuer un autre de ses maris, puis on a un doute sur 2 ou 3 personnes qui sont mortes de son entourage. C'est une femme, c'est une psychopathe de première bourre. On avait un deal avec elle qui était qu'on lui laissait expliquer pourquoi elle pensait. Elle disait qu'elle était innocente. Donc ça, c'était le deal qu'on avait avec elle. De toute façon, l'interview qu'elle nous a donnée était absolument surréaliste. On ne comprenait rien. Ça partait dans tous les sens. C'était très, très drôle. Et alors, à un moment donné, je lui dis, Simone, j'aimerais bien qu'on fasse une photo. On n'avait pas les portables à l'époque. On faisait ça avec des Instamatiques. Et donc, on fait une photo tous les deux, puis elle me dit « Oh, je vous en prie, Christophe, soyez gentil de ne pas diffuser cette photo parce que je ne voudrais pas qu'on me reconnaisse. » On était devant une caméra de télévision, on allait la filmer, d'ailleurs elle était allée chez le coiffeur, c'est donc cette fille était cinglée, je l'ai compris tout de suite, mais en même temps, j'ai eu de la tendresse pour cette femme. À la fin, on s'est embrassés, c'était très drôle, je le raconte, parce que elle m'a dit « Vous savez, c'est pas très souvent que des hommes m'embrassent, évidemment, puisque elle les découpe à la meuleuse à béton. » Et donc, ce contact avec cette femme, ma capacité à m'attacher à elle, à avoir une conversation tout à fait normale, m'a amené à penser que cet univers du crime était plus intéressant que je ne le pensais. Voilà.
Il y a de la réflexion dans le podcast et dans l'émission qu'on va entendre demain, c'est que vous dites qu'il y a parfois une double peine à cause de la médiatisation, et c'est quelque chose qui vous taraude.
Mais les gens sont condamnés à perpétuité ou à 30 ans de prison, mais dans le code pénal, il n'y a jamais dit vous êtes condamné à perpétuité et à ce que votre vie soit racontée pour l'éternité par fait entrer l'accusé. Ça, c'est un truc qui c'est un aspect délétère de ce genre de programme. C'est quelque chose qui m'a toujours posé des problèmes de conscience. J'ai failli arrêter bien avant que je n'arrête en vérité en 2011. À partir de 2007-2008, je suis beaucoup interrogé par des aumôniers de prison, par des directeurs de prison. Je raconte une anecdote dans le podcast.
On apprend que les prisonniers regardent faites entrer l'accusé.
Tous. Mais vous savez, si moi je vais en prison, je signe des autographes. En prison. Voilà. Donc, j'ai un rapport compliqué avec cette double peine, parce que non seulement on raconte tous les détails, il y a des types qui, en général, en détention, mentent à leurs co-détenus. Ils disent, ouais, je fais 2-3 trucs, ils ne s'expliquent pas qu'ils ont violé des petites filles.
Ouais.
Et ça, ils le payent très cher
quand c'est médiatisé. Ça a tourné très très mal, il y a des cas précis.
Et puis ensuite, ils sortent de prison, et toute leur vie, on va leur dire « Ah ouais, je connais bien ton histoire et on connaît tous les détails. » J'ai vu le fait entrer l'accusé et je me dis quand même, ces types, je les ai condamnés à la perpétuité réelle. Voilà, c'est troublant. En même temps, pendant que nous nous développions, Internet s'est développé et Internet a tiré un trait définitif sur le droit à l'oubli, revendiqué par les détenus, que d'ailleurs la justice française ne reconnaît pas, puisque nous avons été 1 ou 2 fois attaqués devant les référés, le tribunal des référés, pour retirer nos reportages au nom du droit à l'oubli. Et de manière constante, la jurisprudence dit qu'il n'y a pas de droit à l'oubli. Mais Internet nous a levé le poids moral qui pesait sur cette réalité, mais n'empêche que ça continue de me travailler, alors que je continue de raconter toutes ces histoires. À Europe 1, j'ai raconté encore plus d'histoires que je n'en ai raconté de toute ma carrière à Fait entrer l'accusé.
Il n'y avait pas l'image. Et puis pour finir, je voulais qu'on entende la musique du générique. Cette histoire aussi, le générique est devenu mythique. Il a une histoire, ce générique.
Alors oui, c'est Michel Legrand. C'est un morceau qui s'appelle Le Messager, qui est une musique de film de Michel Legrand, du film Le Messager. Et cette musique était absolument inconnue. De toute façon, Michel Legrand, aujourd'hui, tout le monde a l'air de penser qu'il a été une vedette toute sa vie. En vérité, il a surtout été une vedette sur la fin de sa carrière. Il se plaignait beaucoup de ne pas avoir de reconnaissance.
Ça a été remixé.
Remixé par Ariel Wiesman. Voilà. Ça, c'est très drôle. Ça a été la seule intervention de Wiesman sur cette affaire. Mais il l'a remixé pour le moderniser, en vérité.
Voilà. On la te raconte cet après-midi. Vous connaissez le programme ?
Oui, cet après-midi, je raconte une grande aventure. Un type qui s'appelle Joey Simpson et un autre qui s'appelle Simon Yates. Ils ont escaladé une montagne. Ils auraient dû mourir 12 fois dans l'escalade de cette montagne. Ce sont des miraculés absolus. Ils ont vécu l'expérience ultime de la survie. Voilà. C'est un truc. Alors je le raconte dans le souffle, comme eux, puisque j'utilise leur texte, et je le raconte en m'essoufflant avec eux de cette lutte pour la vie qui dure 96 heures.
Merci beaucoup Christophe Ondelat, et le récit des 20 ans de Faites Entrer l'Accusé, c'est demain à 14h dans On te raconte, et dès demain matin à 6h en podcast. Merci d'avoir été avec
Salut
nous
Philippe,
en direct
merci
sur Europe, merci à vous.
À suivre l'invité média, on va parler du nouveau magazine Dr Good Veto, le premier magazine sur le bien-être et la santé des animaux. On en parlera dans un instant avec la vétérinaire Hélène Gâteau et Michel Simès sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et on va parler maintenant d'un tout nouveau magazine, Philippe, déjà en kiosque. Pour ça, on accueille Hélène Gâteau.
Depuis ce matin, il y a un nouveau venu dans les kiosques, Dr Good Veto, Veto comme vétérinaire. Dr Good, c'est le magazine lancé par Michel Simès avec le groupe Reworld, Média et Webédia. Michel est co-rédac-chef du magazine. Il s'est adjoint une co-rédactrice en chef de Choc. Bonjour Hélène Gâteau.
Bonjour Philippe. Bonjour
les téléspectateurs vous voient depuis 2 saisons comme chroniqueuse spécialiste des animaux dans Vivement Dimanche, présentée par Michel Drucker. Vous êtes également vétérinaire diplômé, c'est important. Racontez-moi le projet. Qu'apporte Dr Good Veto de neuf par rapport à tous les autres magazines qui existent déjà sur les animaux ?
Eh bien écoutez, je pense avant tout Philippe que Dr Good Veto n'existait pas jusqu'alors, c'est-à-dire qu'il y avait la place pour un magazine qui parle de la santé et du bien-être de nos chiens et de nos chats. Et ça n'existe pas aujourd'hui en kiosque. Donc on est vraiment sur un magazine avec du fond, avec du contenu, avec des experts vétérinaires qui sont interviewés, avec moi-même qui rédige de nombreux articles avec toute une équipe derrière. Et ouais. Ça n'existait pas jusqu'alors vraiment d'être positionné santé et bien-être.
Alors je le confirme, parce que je peux vous dire, il y a même un dossier consacré à l'aromathérapie, je vais arriver à le dire.
L'aromathérapie
pour les animaux, mais je pensais même pas que c'était possible. On va entendre Michel Simès, le créateur du magazine. Il nous a raconté comment il avait eu l'idée.
J'ai eu un rôle avec mon frère de lanceur d'idées. Il y a quelques années, on a lancé Dr Good contre l'avis de tout le monde, en disant vous êtes complètement malade de lancer un magazine presse écrite en ce moment. Et finalement, on a 200 000 exemplaires vendus à chaque fois. Et ça fait longtemps que je me dis qu'un magazine pour les animaux, pour les propriétaires d'animaux domestiques, pour les aider à bien comprendre ce qui se passe, toutes les questions qui peuvent se poser par rapport à leurs animaux et qui n'osent pas forcément poser au veto parce que c'est pas toujours facile à joindre. On s'est dit qu'il y avait peut-être un créneau, surtout qu'il n'y a pas grand-chose sur le marché sur ce sujet. Je me suis rendu compte moi-même, en ayant propriétaire d'un chat depuis 2 ans seulement, qu'on se pose beaucoup de questions concernant ses propres animaux. Et en plus, il se trouve que c'est un peu une frustration pour moi, mais quand j'étais plus jeune, je voulais être veto et on m'a dit c'est trop compliqué comme étude, fais médecine.
C'est dur veto aussi, non ?
C'est dur, ouais. C'est vrai. Ouais.
Qu'est-ce qu'on trouve dans le journal ?
Alors, on trouve de nombreux dossiers de fond. Alors, on a par exemple un dossier sur le surpoids et l'obésité, qui est un véritable fléau chez nos animaux de compagnie. On va trouver, des dossiers sur les médecines alternatives, comme là, l'aromathérapie. Mais bien sûr, à chaque fois, je mets des bémols. Bien sûr, à chaque fois, je renvoie aussi vers les vétérinaires, parce que ça vient aider les propriétaires de chiens et de chats, mais ça ne remplace pas une consultation chez un veto. Donc ça, c'est vraiment important aussi de le préciser. Quand même.
Alors, il y a des sondages étonnants. Écoutez ça, Céline Dacosta. Vous avez des animaux, Céline ?
Des poissons rouges.
Ah bah, alors non, ça ne va pas marcher.
Ça fonctionne 40, pas, merci.
Écoutez, 49% des Français estiment que leur animal de compagnie est plus affectueux que leur conjoint, et 39% plus drôle. Non mais, et ça, un sondage Opinion Research de 2020 de février. Voilà, je salue les conjoints et les conjointes de tout le monde. Donc, vous l'avez dit, un gros dossier, chat, chien, et s'il était en surpoids. J'aime beaucoup la double page d'ouverture du dossier, est-ce que le chat est en, et le chien est en surpoids, parce que vous êtes en photo avec des animaux, avec
pas
Michel Simès.
Voilà. Ouais, c'est ça.
Et s'il était en surpoids, on a l'impression que c'est Michel Simès qui est en surpoids. Faites attention au titre.
C'est non plus, pas non plus le chat et le chien. Et le
blague
chat, c'est
à part,
le mien.
Ouais. Blague à part, vous expliquez pourquoi c'est dangereux pour un chien ou un chat d'être en surpoids.
Bien, parce que c'est une maladie. Le surpoids, l'obésité, c'est une maladie. Et aujourd'hui, donc, comme je disais, il y a un tiers des chiens et des chats qui sont en surpoids. Et surtout, 80% des propriétaires qui ont un animal en surpoids n'en sont strictement pas conscients.
Mais moi, je ne le savais pas. Vous dites un chat européen, c'est 4 kilos. Et moi, la mienne, elle fait 4 kilos 9.
Eh bien voilà, 4 kilos 9, on est déjà quasiment 20% de plus par rapport à son poids normal. Donc, elle est en surpoids.
Il y a toutes sortes, pardonnez-moi, je vous interromps, il y a toutes sortes de races de chiens, évidemment. C'est très difficile. Donc, vous donnez le truc, la manière de savoir. Il faut palper les côtes, expliquer.
Une grille, en fait, on a une grille de lecture, effectivement, pour pouvoir voir si son chien est en surpoids ou obèse. Une chose très simple, si vous mettez votre main à plat, par exemple, sur la table, et que vous passez votre doigt sur les articulations de vos doigts, là, vous sentez les articulations, d'accord ? Ouais. Si vous sentez ça au niveau des côtes de votre chat ou de votre chien, c'est qu'il est un poids normal. Si vous retournez la main et que vous continuez à passer votre doigt à cet endroit-là, eh bien vous sentez moins les articulations. Et là, tout de suite, eh bien c'est la sensation qu'on aura sur un animal en surpoids.
Il y a également, vous donnez des règles de planning sportif, je l'ai dit, 14 pages dans ce dossier, c'est passionnant. Il y a des brèves incroyables. Par exemple, le fait que la musique soit appréciée des chats, ça va même plus loin. Il y a des compositeurs qui ont fabriqué de la musique spéciale chat, réalisée, écrivez-vous, à base de ronronnement et d'une gamme de fréquences similaire à celle des chats, 2 octaves au-dessus de la voix humaine. Et vous savez quoi ? On a le disque.
Ah !
Comment s'appelle le compositeur ?
David Tei. C'est assez insupportable pour l'oreille humaine quand même,
moi,
ça.
Écoutez, hein. Moi j'ai supporté ça. Écoutez, je veux dire ce que j'ai fait ce matin très tôt. J'ai passé ce morceau à ma chatte Peluche, qui
réaction.
Était assise comme ça, et tout d'un coup, elle était comme une folle, et elle regardait l'enceinte, et elle s'est levée pour aller vers elle. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui marche. Et cette respiration, j'ai réfléchi, plus rapide que la respiration humaine, ça doit être la respiration des chats, j'imagine.
Il y a aussi des bruits de susottement, en fait. C'est le susottement que font les chatons quand ils sont en train de téter leur mère. Donc ça aussi, ce sont des sons qui sont reproduits dans cet extrait, des sons de ronronnement. Et on sait qu'en fait, les animaux, ils ont une acuité sensorielle qui est différente de la nôtre, qui est propre à chaque espèce et qui fait que les chats vont être sensibles à ce type de musique, tandis que les chiens, d'ailleurs, s'ils sont de grandes races ou de petites races, ne seront pas sensibles au même type de
c'est
musique.
Vrai. C'est vrai, votre chien nous écoute, vous voulez qu'on lui passe quoi comme musique ?
Alors on va lui passer un peu de reggae par exemple.
Pas tout de suite, on marque une pause, vous restez avec nous.
Oui, près d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie qui est considéré comme un membre à part entière de la famille. Il leur fallait bien un magazine dédié à leur santé, à leur bien-être. C'est chose faite avec Dr Good Veto. On continue à en parler avec notre invité dans un instant sur Europe 1. Allez, couchez.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Il est en kiosque depuis ce matin un nouveau magazine dédié à la santé et au bien-être animal qui s'appelle Dr Good Veto. Et pour en parler avec nous, Hélène Gâteau, Philippe.
Il y a des gros dossiers Hélène Gâteau qu'on peut voir chez Michel Drucker le dimanche également, qui est vétérinaire, c'est important de le dire. Il a mauvaise haleine, c'est grave docteur. On ne parle pas de Michel Drucker, c'est un des dossiers sur le chat et le chien. Il y a un article qui m'a vraiment étonné, moi qui ne connais pas les chiens, moi qui ai un chat chez moi, c'est quand on parle à un chien comme à son bébé, ça s'appelle le baby talk, comme dans le Yuki, la chanson de Gotenner.
Il était là le bouchon Pikachu, il était là le plus beau des cookies, il était là qui, le beau poupou, le plus joli de tous les bounoukis. Et c'est à qui tout ça ? C'est à qui ? À qui c'était les papates poilus ?
À qui c'était les papates poilus ?
Pas mal, bravo.
Vous avez un chien, vous lui parlez comme ça ?
Exactement, je lui parle comme ça et j'assume ouais. Parce que ça leur fait du bien aux chiens, figurez-vous.
C'est ça qui est incroyable,
ben oui, c'est
que
ça.
Vous dites que les chiens, et surtout les petits chiens, reconnaissent ce langage-là, expliquez.
Alors en fait, les chiens, ils vont être très sensibles aux intonations aiguës. Déjà dans le langage canin, toutes les intonations aiguës sont plutôt associées à quelque chose de positif, à des relations amicales, tandis que les sons graves, c'est plutôt la menace, la peur. Donc il est important pour eux de leur parler sur des tons aigus. Ça signifie de la bienveillance, mais ça va aussi favoriser finalement pour eux l'éveil, la curiosité, ça va favoriser l'apprentissage, ils vont se sentir aimés. Donc voilà, ne pas hésiter à parler dans ce qu'on appelle le langage bébé, le baby talk, et pour vous dire, c'est instinctif. Comme ouais. un parent va parler à son nouveau-né sur des tons très aigus, et ça a d'ailleurs été montré que chez les bébés humains, ça favorise aussi l'apprentissage du langage, et bien nous, les pets parents, ouais. les parents d'animaux de compagnie, et bien on leur parle instinctivement, avec des sons comme ça. Mais alors, est-ce que t'as bien mangé, mon culu beau, mon chien, c'est
vous lui dites quoi, votre chien, ce matin?
Je lui ai demandé, est-ce que t'as bien dormi, mon colonel? Oh, mais beau, mon colonel. J'assume.
Il s'appelle colonel.
Il s'appelle colonel.
C'est hors série, c'est un coup d'essai, il y en aura d'autres, comment ça se passe?
Alors, bien sûr, on va voir les résultats des ventes de ce numéro-là. Ça sera un trimestriel, il y aura un prochain numéro à la rentrée, septembre-octobre. Et voilà, on espère que le ton décontracté, le ton feel good qui imprime la marque Dr Good, avec bien sûr des informations sérieuses, et bien on espère que tout ça va plaire à notre public, et bien sûr avec tout le côté digital qui va avec, l'Instagram Dr Good Veto, voilà. C'est un 360 Dr Good Veto.
Il y a l'été qui arrive, vous pensez qu'il y aura malheureusement encore davantage d'abandons d'animaux à cause de la crise du Covid ?
Alors, j'espère que, justement, ça fait partie de mon édito dans le mag, j'espère qu'il y aura comme un pet boom, ouais. moi, cette année. Parce qu'on s'est rendu compte,
des
pendant le Covid,
adopter.
Voilà, à quel point eh bien, la présence des animaux de compagnie nous font du bien. Donc, j'espère que cette année, eh bien, ça va faire démentir un petit peu toutes les statistiques annuelles qui sont extrêmement tristes et catastrophiques en France.
Pendant la crise du coronavirus, Michel Simès, qui est co-rédacteur-chef de ce numéro, a été très présent sur les plateaux de télé. Et au micro de Louise Bernard, il est revenu sur cette période compliquée pour lui. Il avait été notamment accusé d'avoir minimisé l'épidémie.
Vous savez que ça n'a pas été simple. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un problème scientifique, médical, lié au fait qu'on n'avait probablement pas les bonnes informations de la part de l'Organisation mondiale de la santé et de la Chine. Et puis, il y a eu une sorte de psychose, d'hystérie de la part des haters sur Internet qui n'avaient rien d'autre à faire que de s'exciter en envoyant des messages haineux. Ça m'a beaucoup appris. Je prends beaucoup de recul par rapport à tout ça, mais c'est très très bonne leçon pour l'informateur santé que je suis. J'ai appris à dire « on sait pas ». J'ai appris aussi, c'est Bruno Mazur qui m'a dit ça, il m'a dit « quand on est en vitrine, on est le premier à prendre le pavé ». J'ai appris qu'on pouvait vous faire dire, enfin me faire dire, puisque ça me concernait directement, des choses que je n'ai jamais dites, et qu'il n'y a pas que des professionnels compétents dans le métier de journaliste. Par exemple, la fameuse grippette, je n'ai jamais prononcé ce mot. Quelqu'un l'a dit un jour et ça a été repris partout ensuite. Comme il y a quelques journalistes qui font plus du copier-coller que de la vraie recherche d'investigation. Je me suis tu jusqu'à maintenant, mais je vais commencer à répondre à ceux qui m'ont fait dire n'importe quoi. J'ai fait le dos rond là pendant quelques semaines et quelques mois, parce que je pense que la préoccupation des Français est autre que moi, et heureusement. Mais voilà, je vais commencer à expliquer ma vérité.
On remercie évidemment Michel Simès pour sa franchise et d'avoir lancé l'offensive dans Culture Média. D'après nos infos, il va répondre ensuite chez nos confrères de Pure Média qui dépend de Web Média. Un commentaire
et... Écoutez, moi je pense que quand on est exposé et quand on s'en prend comme il s'en est pris comme ça, je trouve ça vraiment malheureux, d'autant que Michel Simès a été là au tout début de l'épidémie pour décrypter, pour vulgariser, pour rassurer, pour aider. Voilà, et il a fait un super travail, donc je trouve ça vraiment dommage qu'il s'en soit pris autant.
J'ai complètement oublié de vous demander les prénoms préférés des chats et des chiens. Vous les connaissez ou pas?
Alors,
c'est comme les top, maintenant ils s'appellent Hugo et Roméo, alors maintenant je peux vous le dire. Chez les chiens, en 1 c'est Perle, en 2 c'est Pixel, en 3 c'est Pouki. Ah oui, dit Dacosta.
Ouais, ouais.
Et chez les chats, c'est en 1 c'est Pablo, si vous avez un chat qui s'appelle Pablo, Pilou en 2 et Pacha en 3.
Ça c'est parce que chaque année, vous savez, il y a une lettre qui correspond à une année pour pouvoir... appeler, donner un nom à son animal de compagnie.
Comment ils s'appellent vos poissons?
Sushi et Chocolat.
On les embrasse, ils nous regardent, ils nous écoutent. Merci beaucoup Hélène Gâteau. Je
Merci
rappelle,
à vous.
Dr Good Veto, c'est en vente avec cette musique spécialement pour chats chez tous les marchands de journaux. Ça coûte 5,95€ et vraiment, c'est un magazine qui fait ronronner.
Culture Média continue, Philippe.
Évidemment que ça continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture. Nous serons avec l'acteur Pierre Deladonchamp, tête d'affiche de la mini-série de France 2 Romance. Ça passe ce soir. Il y aura son portrait inattendu dressé par Hélène Manarino. Et puis dans les indispensables, 3 films à voir en VOD avec des paysages à couper le souffle. Et puis musique. On va parler du phénomène Tove Lo, faut pas que je me trompe. Elle est effrontée, elle est impertinente, elle est parfois trash. Aucun secret pour Angèle Châtelier, mais d'abord le journal de la culture, juste après ça.